Une fois que vous avez prié comme ça devant le Seigneur, à un certain moment, vous regardez bien l'hostie, et puis vous pensez que Jésus, il n'est pas là pour y rester, il est là pour être mangé. Car le ciboire qu'il désire, ce ne sont pas les ciboires en or dans lequel nous le mettons pour le conserver. Le ciboire qu'il désire, c'est votre cœur. Et donc nous allons avoir toute une série de prières où nous allons désirer manger le corps du Christ. Il est là pour être mangé et pas seulement pour être adoré. Et votre prière va devenir une prière de désir qui lui plaît tout autant qu'une prière d'adoration. Et donc, à ce moment-là, au lieu de regarder l'hostie, il est possible que vous éprouviez le besoin de fermer les yeux pour penser que Jésus, il est déjà dans votre cœur et vous désirez qu'il y vienne davantage. Et du coup, je réponds à une question qui m'est souvent posée. Quand on est à la chapelle, monsieur l'abbé, est-ce qu'il vaut mieux regarder l'hostie et penser que Jésus, il est devant, ou bien fermer les yeux en pensant que Jésus, il est dans mon cœur? Qu'est-ce qui vaut mieux? Les deux, mon capitaine. Seulement, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Parce que Jésus, il est à la fois devant et dedans. Et il est devant pour être dedans, justement. Il est là pour que, sorti de l'Église, il soit encore davantage en moi. C'est le but de l'Eucharistie. C'est très important si vous enseignez l'Eucharistie. Et il n'est pas là pour qu'on se contente de l'adorer. Il est là pour être mangé. Et qu'à la sortie de l'Église, je puisse dire davantage avec saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le fruit de l'Eucharistie, Jésus lui-même l'a indiqué dans son fameux discours de Capharnaüm, chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Sorti de la chapelle, je serai davantage en lui. » Donc vous vous préparez à votre prochaine communion, tout simplement. Et vous lui dites « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. » Deux textes du Nouveau Testament, la première aux Corinthiens et l'Apocalypse, nous donnent cette prière très ancienne des premiers chrétiens en araméen, Maranatha, Seigneur, viens. Et Bernard de Caux a mis une mélodie sur Maranatha, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de Dieu, parce que en demandant à Jésus de venir en mon cœur, je lui demande de venir avec tout l'Esprit Saint qu'il y a en lui. Vous savez que le mot Christ, c'est le participe passé en grec du verbe oindre, comme le mot Messie est le participe passé en hébreu du verbe oindre. Quand on dit que Jésus est Messie, qu'il est Christ, ça veut dire qu'il est rempli de l'Esprit Saint et qu'il peut donc venir nous le donner. Regardez les post-communions de la messe. Une post-communion sur deux exprime ce mystère que en venant en nous, Jésus est venu avec la plénitude des dons du Saint-Esprit. Une prière eucharistique le dit bien, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint. Il vient à nous avec tous les dons de l'Esprit-Saint. Tous les sacrements nous donnent l'Esprit-Saint. Vous le savez bien, pas seulement la confirmation. Tous les sacrements, c'est Dieu qui nous donne l'Esprit-Saint par Jésus, mais le très saint sacrement nous donne une plénitude du Saint-Esprit puisque nous recevons toute la sainte humanité du Christ. Voilà, donc, vous pouvez rester très longtemps devant le saint sacrement en lui disant dans le fond de votre cœur, Jésus, installe-toi davantage en moi lorsque je communierai demain ou ce soir, que je sois encore davantage rempli de ta sainte présence et de tous les fruits de l'Esprit-Saint que tu veux me donner. C'est tout simple. Ou bien vous écoutez Jésus vous dire « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Au bout d'un certain temps, vous vous dites « Oui, mais je suis bien indigne de recevoir ce Jésus. » Tout d'un coup, vous vous rappelez que vous êtes terriblement pécheur. Et alors votre prière devient un Kyrie Eleison. Au lieu d'être une prière de désir, c'est une prière de pardon, comme vous le faites au début de chaque Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Vous voyez, c'est encore une prière qui lui plaît énormément. Vous voyez, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que l'adoration n'est pas la seule attitude que nous avons devant le Seigneur présent au tabernacle. Vous savez, une prière, qui est un Kyrie eleison. Au lieu de le dire en 20 secondes, vous restez plusieurs minutes à répéter « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Mes mains se ferment pour tout garder, apprends-moi à partager. » Vous faites circuler dans votre esprit un certain nombre, vous évoquez dans votre esprit un certain nombre de guérisons opérées par Jésus lorsqu'il était visiblement parmi nous, et vous dites « Moi aussi je suis ce paralysé, moi aussi je suis cet aveugle-né, moi aussi je suis ce sourd-muet, moi aussi je suis cette femme toute recourbée sur elle-même qui a besoin d'être guérie par toi, Jésus. » Voilà, prière toute simple. Ou mieux encore, non pas mieux encore parce que tout ça, ça se vaut, vous répétez avec vos frères d'Orient « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Vous savez qu'en Orient, il y a des milliards de gens qui font ça depuis des siècles. Ils répètent cette prière de Jésus à longueur de raison. Je pourrais faire toute une conférence pour montrer tout ce que l'on peut mettre dans cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, donc le Père était Christ. » C'est une prière trinitaire, finalement, même si elle s'adresse à Jésus. Parce que quand on dit à Jésus qu'il est Christ, on pense forcément au Saint-Esprit, puisque Christ, ça veut dire rempli du Saint-Esprit, Fils de Dieu, Fils du Père. Ou bien vous écoutez Jésus vous redire pour la énième fois, « Ne t'en fais pas, petit Père, si tu te sens pécheur, puisque je suis venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. » Donc si tout à coup vous êtes surpris par l'énormité de votre misère, vous vous présentez à lui comme un pauvre pécheur, et ça lui plaît énormément. Au lieu de dire « Que ton nom soit sanctifié », vous dites « Pardonne-nous nos offenses. » Dans le Notre Père, on ne fait pas qu'adorer. Toutes les prières sont bonnes. Quand vous avez prié de cette façon-là, il y a souvent le syndrome de moins 20. Vous savez, quand vous regardez votre montre, vous avez promis de rester une heure à la chapelle. Vous regardez votre montre, il est moins 20. Parfois, le syndrome se produit déjà à 20. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus rien à dire. Et alors, votre prière devient une prière d'intercession. Et ce n'est plus une prière d'adoration, mais c'est une prière qui prête énormément au Seigneur. Vous êtes là devant la Sainte Hostie, la plaque tournante par laquelle passent toutes les grâces pour tous les temps et pour tous les lieux. Ce n'est pas pour rien qu'on met l'hostie au centre d'un ostensoir où il y a des rayons. Ce n'est pas seulement Jésus qui rayonne, Jésus transfiguré, mais Jésus qui va influencer tous les hommes de tous les temps. Je vous ai souvent expliqué que Madame de Cro-Magnon, elle pouvait aimer son mari, Monsieur de Cro-Magnon, par une grâce qui venait du corps de Jésus. Vous allez me dire, oui, mais Jésus n'était pas encore né. Oui, d'accord. Mais maintenant qu'il est ressuscité, son humanité explose à travers l'espace et le temps, justement. Donc c'est par Jésus, né du ventre de Marie, que tous les hommes de tous les temps ont été sauvés et ont reçu le Saint-Esprit. C'est beau, vous savez. Moi, ça me suffit pour prier longtemps devant le Saint-Sacrement. Je regarde la Saint-Esprit, je me tiens debout. Je vous ai expliqué que le curé d'Ars ne s'agenouillait jamais devant le Saint-Sacrement, qu'il exposait dans sa chapelle le dimanche. C'est pas pour jouer au curé d'Ars que je me mets debout, mais parce que ça m'empêche de me dormir, voyez. On peut pas toujours être à genoux. Assis, je risque de somnoler. Debout, c'est excellent. Et puis c'est le veilleur, c'est là. Seigneur, je suis là pour prier pour le monde entier. Ce que vous faites dans la prière universelle, vous pouvez passer un bon moment de prière universelle devant le Seigneur. Surtout la nuit, parce que la nuit, vous pensez aux pompiers qui sont en train d'aller chercher un homme en difficulté. Vous pensez aux chirurgiens qui opèrent d'urgence, aux couples qui se disputent, aux couples qui se réconcilient, etc. Aux Japonais qui sont en train de se réveiller. Voilà, prière universelle. Et vous écoutez le Seigneur vous dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je rappelle que Jésus a dit cela le dernier jour de la fête des tentes à Jérusalem. On sait maintenant, parce qu'on connaît mieux la liturgie juive de l'époque, que le dernier jour de la fête des tentes, on portait une vasque d'eau depuis la piscine de Siloé jusqu'au temple de Jérusalem, pour rappeler le grand miracle qui avait eu lieu sous la baguette de Moïse dans le désert, lorsque Moïse avait frappé le rocher et qu'il en était sorti de l'eau pour désaltérer le peuple et les bêtes. Il l'a même frappé deux fois, il semble qu'il se soit un peu énervé parce que ça ne venait pas tout de suite, et du coup, comme punition, il n'a pas eu la permission de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est Josué qui l'a fait. Bon, et alors pour rappeler ce grand miracle de l'Exode, on célébrait en la fête des tentes. La fête des tentes, c'est la fête où l'on célèbre justement le séjour des Hébreux pendant 40 ans dans le désert. On faisait cette cérémonie. Et Jésus a profité de cette cérémonie pour dire, c'est la seule fois où on voit Jésus crier dans l'Évangile, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive !» Saint Jean a l'humilité de reconnaître que sur le moment, il n'a rien compris, mais par la suite, il a compris que Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'il communiquerait lorsqu'il serait ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, la véritable eau qui doit vous désaltérer, les enfants, ce n'est pas celle qui a jailli sous la baguette de Moïse, c'est celle qui jaillira de mon cœur transpercé lorsque le centurion frappera ma poitrine. Certains exégètes disent que Saint Jean emploie un verbe grec enuxen qui peut vouloir dire à la fois frapper et percer. Comme si Saint Jean avait voulu faire un jeu de mots à ce moment-là, le centurion, il a percé le côté du Christ, mais en même temps, il l'a frappé comme Moïse a frappé le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Bon. Donc j'écoute Jésus me dire, je suis la source de vive, n'ayez pas peur, demandez-moi de répandre des grâces sur le monde et je le ferai. Et puis une fois que vous avez beaucoup prié pour les Japonais qui se réveillent à l'autre bout de la planète, vous pensez tout à coup que quelques heures plus tard, vous allez devoir retrouver votre belle-mère. Ou surtout, parce que les belles-mères sont excellentes, la preuve c'est qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous allez retrouver la personne que vous avez du mal à encaisser à longueur de semaine. Et vous savez qu'il est plus facile de prier pour les Japonais que prier pour la belle-mère. Oh, c'est pas bien ça, oui, c'est vrai, c'est pas bien, oui. C'est pas très charitable, mais enfin, vous voyez l'humour qu'il y a derrière. Bon, vous connaissez la réponse que faisait un petit bonhomme à son curé. Pourquoi, mes enfants, faut-il aimer son prochain ? Oh, monsieur le curé, parce que les autres, ils sont trop loin. Bon.